La perdrix de Ludivine. Ludivine était la fille d'un pêcheur. Elle avait 18 ans et la rusticité de son origine n'enlevait rien à la beauté de ses formes et à l'heureuse harmonie de ses proportions. La finesse de ses attaches eût fait envie à une duchesse de bonne maison ou à une sauvagesse sans alliage. Rompue à tous les exercices de la mer et du bois, elle tranchait la morue en se jouant et tendait un piège à renard avec une suprême habileté. Elle eut battu Atalante à la course et, à la barre d'une barge en main, rendit des points au premier timonier du monde. Nul ne dansait le castor comme elle, et l'on parle encore des truites au lard qu'elle faisait frire et des faillots qu'elle préparait. Après cela, d'une sagesse exemplaire, pas un mot à dire. Quoi? Rien. Absolument rien. Le curé lui-même, à son prône, où il ne ménageait cependant personne, n'avait encore rien critiqué en Ludivine, et qu'aurait-il dit? Elle n'allait jamais aux graines avec les garçons, nul ne l'avait jamais vue s'attarder dans les coins noirs avec son danseur après la danse. Quand elle prenait le bois, c'était toujours toute seule ou avec des personnes éprouvées. Charlie B. prétendait bien l'avoir embrassée une fois, une seule, mais Charlie se mettait souvent en fête et, dans cet état, se laissait entraîner à dire 36 menteries qu'il désavouait ensuite. « Ludivine était donc une fille parfaite ?» me dira-t-on. « Hélas, non, » répondrai-je. « Il n'est pas de fille parfaite en ce monde, et je le regrette de toute mon âme. Ludivine avait un grand défaut. Elle aimait trop la chasse. » C'était chez elle une invincible passion, et rien ne lui coûtait pour la satisfaire. Elle lui sacrifiait jusqu'aux entraînements de la plus élémentaire des coquetteries, et ses costumes de chasse n'eussent pas été déplacés dans la hotte du chiffonnier le plus sordide. Cet inéventable entraînement et se laisser aller lui causèrent un jour une cruelle mésaventure, et je vais vous la conter. Elle savait que les jeunes perdrix commençaient, à cette époque, à venir au plein chercher des graines rouges dont elles étaient friandes, et le désir de régaler son père le dimanche suivant l'avait poussée à contrevenir aux lois, qu'elle ignorait d'ailleurs profondément et dont elle se moquait comme d'une guigne. Le vendredi, son ménage achevé, ses vaisseaux préparés, ses couteaux à trancher, à piquer, à décoller, mis en ordre, elle s'achemina vers ses collets. Le temps avait été très doux, un peu pluvieux. Les perdrix avaient gardé le bois, aussi n'en trouva-t-elle qu'une seule qui se fut prise. Elle la mit dans sa poche de sa jupe et reprit la route de la maison. Chemin faisant, elle s'aperçut, en jetant un coup d'œil au large, que les barges rentraient. Elle hâta le pas pour se trouver au plein à l'arrivée de son père, afin de l'aider à décharger sa morue, à la trancher, à la saler dans le chafaud, et elle oublia sa perdrix. La pêche avait été abondante et il était minuit passé lorsqu'elle put songer à dormir. Il fallait se lever dès l'aurore qui écarte ses voiles bien de bonne heure en cette saison et elle se laissa tomber tout habillée sur son lit. Au réveil, elle dut s'occuper du grand ménage car c'était samedi, veille du dimanche. De plus, le curé était arrivé le matin même pour sa mission et devait confesser le soir. Ludivine vaqua à ses travaux obligés avec sa vaillance ordinaire et oublia de plus en plus sa perdrix. Puis, le soir venu, jetant sur sa robe de travail un vêtement un peu plus propre, elle se dirigea vers la chapelle. Tout au long du chemin, il lui sembla qu'une odeur désagréable l'accompagnait avec persistance, mais les sentiers du Labrador exhalent tant de parfums qui ne doivent rien à la rose qu'elle ne songea point à s'en étonner. Rendue à l'église, tous les soins de son examen de conscience absorbèrent toute son attention. Elle ne sentait plus rien que le regret de ses fautes. Son tour vint. Elle entra dans le confessionnal et s'y agenouilla pieusement. Puis, au moment voulu, elle commença l'aveu de ses péchés. Il n'était pas énorme, ainsi que vous devez le penser. Cependant, le curé semblait soucieux, presque sévère contre son habitude, car il était pour toutes les faiblesses l'indulgence en personne. Il se remuait souvent, se mouchait à tout propos. Bref, donnait tous les signes d'une agitation singulière. Enfin, n'y tenant plus, à l'instant où la fille s'accusait avec une extrême contrition de son plus gros péché, il s'écria, contenant à peine les éclats de voix, « Ludivine, ça pue horriblement !» La jeune fille, complètement ahurie, ouvrit des yeux énormes, puis pâlit tout à coup. Puis un souvenir venait de traverser son cerveau avec l'acuité d'un harpon. « Monseigneur, se dit-elle, c'est la perdrix qui s'est gâtée dans ma poche. Il fait si chaud !» Que faire, bon Dieu? Et son embarras était extrême. Le curé, qui s'aperçut de sa pâleur, reprit. Ça te rend malade, hein? D'où vient donc cette odeur? C'est la perdrix, monsieur le curé, répondit Ludivine. Comment, la perdrix? Oui, monsieur le curé, ma perdrix. Le curé regarda sa pénitente avec étonnement Et, sa figure s'assombrissant soudain, il dit sèchement « C'est bien, continue ta confession. » Ludivine acheva et sortit tout en émoi. Le curé, une fois libre, se précipita hors de la chapelle, humant avec frénésie les émanations du varech et de la mer qui venaient jusqu'à lui. Enfin, il rentra chez moi où il couchait. Le lendemain, après la messe, il se mit en devoir de prononcer son allocution habituelle. Il avait l'air d'assez méchante humeur et, le connaissant, je supposais qu'il allait se livrer à l'un de ces accès d'étonnante franchise dont il était coutumier, sans se préoccuper de la délicatesse d'oreille, qu'il savait d'ailleurs peu sensible, de ses auditeurs. J'étais allé la veille, dans la soirée, fumer une pipe et jouer au jack chez le père de Ludivine, et j'y avais appris que l'on avait dansé chez Dodd et que, le whisky aidant, la partie de plaisir avait été un peu débraillée. Incidemment, Ludivine m'avait parlé de sa perdrix et prié de l'excuser auprès du curé, tâche qu'il m'avait été impossible d'accomplir, le curé s'étant levé bien avant moi. Il commença et, comme je m'y attendais, entra à pieds joints dans son sujet. On a dansé chez Dodd il y a 5 jours, et comme d'habitude, les hommes se sont conduits en ivrogne et les filles en pas grand-chose. Si on recommence ces indignités, je refuserai l'absolution aux coupables. Il vaudrait mieux me payer ma dîme, dont j'ai besoin, encore plus pour les pauvres que pour moi-même, que de consacrer l'argent qui m'est dû à l'achat de mauvais whisky. Jusqu'ici, je n'ai jamais réclamé. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir de la dernière exigence. Puis, après une pause, il ajouta. Certes, il est bien, il est même très bien, de revêtir un costume convenable pour venir à l'église le dimanche, mais cela ne suffit pas. Il faut encore être aussi net en dessus qu'en dessous. Hier, j'ai failli mourir asphyxié en confessant les femmes, et, puisque Ludivine prétend que cela s'appelle ainsi, je vous défends de vous présenter désormais au confessionnal sans vous laver à fond la perdrix. Je n'eus que le temps de franchir la porte de l'église, près de laquelle je me tiens toujours, avant d'éclater. Quand mon curé vint me rejoindre, je riais encore. Je lui expliquai sa méprise et il en rit encore plus fort que moi. Puis, une fois calme, il me dit « Baste, c'est une métaphore, un peu hardie peut-être, mais la propreté est une vertu, et je suis ici pour prêcher la vertu. » « Et pour les pratiquer toutes, » interrompis-je. « Amen, flatteur. »